France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Sheila Hicks. Vers 19h45, le son du jour, Butterfly Phase de Kelly Moran. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours au Japon, à la villa Kujoyama, à Kyoto. Elle nous fera découvrir ce soir l'art de la laque japonaise, ainsi que le concept de wabi-sabi. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Sheila Hicks.
Bonsoir.
Vous présentez en ce moment l'œuvre Scarlet Letter, la lettre écarlate en français à Art Paris, au sein de la section Art and Craft, curatée par Nicolas Tremblay. Art Paris qui se tient du 4 au 7 avril au Grand Palais éphémère, qui me donne pour part cette occasion de vous accueillir ce soir. C'est un grand honneur, un grand plaisir. Vous participez également à l'exposition Emerging, Submerging, Reemerging, à voir jusqu'au 1er mai à la galerie Franck Elmaz. Nous en parlerons bien sûr d'autres actualités à venir. Alors, si le grand public connaît mieux votre œuvre depuis cette grande exposition monographique au Centre Pompidou en 2018, on va revenir ensemble ce soir sur quelques moments importants de votre parcours. On va essayer de mieux comprendre votre façon de créer. Alors, je demande toujours à mes invités ce qui a bien pu les conduire vers la pratique de leur art. Alors, bien souvent, évidemment, on revient à l'enfance, à l'adolescence, à l'environnement familial. Alors, il faut dire que vous êtes né en 1934 à Hastings, dans le Nebraska, une enfance nomade, selon le travail de votre père, puisque ça va vous emmener en Floride, en Oklahoma, puis dans le Michigan. On sait que votre œuvre est nourrie par le textile, et vous expliquez que vous avez, très jeune, confectionné des vêtements, parce que vous recopiez les modèles que vous voyez en magasin, mais qui étaient un peu chers. On sait que votre œuvre est également nourri, et on va en parler, par des techniques de différents peuples à travers le monde. Et vous savez, même si le sujet était tabou, qu'il doit y avoir des liens dans votre famille avec des Indiens d'Amérique, des Natives. Mais qu'est-ce qui fait, tout de même, Sheila Hicks, qu'après votre bac, alors que vous deviez entrer dans une école de filles, je mets beaucoup de guillemets, vous choisissez d'intégrer l'Université d'art de Syracuse. D'où vous venez ce goût ou cet intérêt pour l'art?
I wish I knew. Je ne sais pas. Pour vous répondre brefement, concisément, je continue dans ce domaine pour découvrir pourquoi je suis attiré par ça. Et comment mon curiosité est immense, ça m'amène dans tout le couloir impossible à explorer. Et je ne quitte pas le domaine de l'art, même si les choses tournent très mal quelquefois, même si ça tourne très bien quelquefois. Et je me demande qu'est-ce que je fais là. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que je fais là, mais je continue et peut-être on va arriver de savoir la bonne réponse à votre question.
Bon, je la reposerai dans quelques années, alors peut-être. Mais dire que vous avez ensuite été admise à la prestigieuse université de Yale, vous aviez 20 ans à ce moment-là, vous étiez une des très rares jeunes femmes sur le campus, et à la Yale School of Art and Architecture, vous vous formez à la peinture auprès de Rico Lebrun, Herbert Mather, mais il y a surtout...
Et Joseph Albers.
Il y a surtout Joseph Albers. Et avant d'évoquer son enseignement, on va écouter une archive, on va écouter Walter Gropius, architecte, designer, urbaniste, fondateur du Bauhaus.
Collègue de Albers.
Collègue, patron, un peu,
oui,
puisque Albers
oui,
y a
oui.
été enseignant pendant 10 ans au Bauhaus. Écoutez ce que disait de lui Walter Gropius.
Albers has Albert avait cette qualité très rare pour un professeur. Il traitait chaque élève personnellement. Si un élève était peu sûr de lui et qu'il ne savait pas encore nager, disons, il le poussait à l'eau. Et quand l'élève commençait à se noyer, il le récupérait et était là pour le conseiller. C'était un génie dans sa manière de faire. Il amenait l'élève à trouver sa voie. L'imitation était tabou, donc il le faisait repartir de zéro pour trouver ses qualités propres. Le but de tout ça, c'était de donner un enseignement aussi individualiste que possible, mais toujours avec la conscience qu'on ne peut pas faire les choses seul. Que les implications sont si grandes qu'il faut prendre en considération la communauté tout entière et comprendre les autres hommes. On a développé cette idée que tout ce qu'on fait, que ce soit une peinture, un bâtiment ou une chaise, il faut le faire en pensant à la manière dont l'être humain va s'en servir.
Ça, c'est Walter Gropius qui parlait de Joseph Albers. Vous acquiesciez chez Laex en l'écoutant. Qu'est-ce qui a été pour vous si important dans l'enseignement de Joseph Albers?
Le jour qu'elle m'a embarqué à Chili, en Amérique du Sud. Le jour qu'il est arrivé dans le petit atelier à l'école, en regardant mon travail, qui était la peinture, et qui me disait, allez, girl, à mon bureau, je laissais des papiers avec Clancy, le secrétaire, allez le signer. Je suis allée, j'ai signé le papier. C'était des papiers qui m'embarquaient sur une Fulbright bourse à Chili. Mais comme je ne savais pas où était Chili, après, je suis allée à la bibliothèque à côté pour chercher Chili. Mais comme Albert était très convaincante, très, et on n'osait pas dire non à lui, nine, impossible. Et je regardais la carte, je me suis dit, d'accord, je pars, je fais comme qu'il m'expliquait, qu'il me dirigeait. Mais je ne suis pas sûr comment est-ce que je vais retourner de là, parce qu'il me semble très loin.
Ouais, il n'avait pas tort, hein, Joseph Albers, on va en parler, mais parce qu'il y avait quand même, auparavant, d'abord, d'autres rencontres importantes, parce qu'il y avait sa femme, Annie Albers, qui travaillait, elle, déjà le textile, et puis il y avait ce professeur d'art hispano-américain, George Kubler, qui était un très très grand spécialiste de l'art précolombien. Il avait repéré, Joseph Albers, que vous aviez quand même une sensibilité, que cet enseignement, ça vous avait touché personnellement. Qu'est-ce que ça avait réveillé en vous?
Le fait que je fais la peinture, mais qui est aussi sur la table à côté, j'avais des fils, string, cotton, wool, shoelaces.
Des ficelles, du coton, des chaussures.
Plein d'assortiments de matières avec lesquelles je me suis amusée. Et qu'il a vu ça, il a dit, tiens, viens avec moi, je vais présenter ma femme. Il m'a conduit jusqu'à chez lui, il m'a présenté sa femme, mais l'autre élève qui était à côté de moi essayait de m'empêcher d'y aller.
Pourquoi?
Parce qu'il dit, fais attention, tu ne veux pas aller chez votre professeur. S'il te dit c'est pour présenter sa femme, méfie-toi.
Non.
Je me suis dit, je n'ai pas beaucoup de choix. Il a beaucoup d'autorité, il me semble convaincante, mais peut-être je vais aux bibliothèques aussi pour savoir qui c'est sa femme, pourquoi il veut me présenter sa femme. Et quand j'arrivais, il a me conduisait, il m'a laissé dans le salon, assis sur une semblance d'une chaise, mais en fait c'était une something torn out of a car, un siège d'une voiture.
Un siège de voiture.
Il me semblait bizarre que mon professeur de cette institution prestigieuse n'avait pas des meubles. Et en plus, quand Après, vous savez, il dessinait des meubles très, très beaux. Mmh. Il s'éclipsait sous-sol pour aller faire son travail, peintre. Mmh. Et il m'a laissé avec cette femme qui était difficile à communiquer avec. Parce que pourquoi je me suis là? Pourquoi je... Mmh. Il a dit, montre-le les choses que tu fais. Montre-le. Je n'osais pas. Je n'osais pas parce que c'était des choses que je faisais pour moi-même, pour m'amuser. Elle a regardé silencieusement, parce qu'en plus, elle ne savait pas pourquoi.
Pourquoi son mari vous avait ramené chez eux? Elle vous a dit quoi, finalement, Annie Albers?
Elle essaie de voir qu'est-ce qu'était mon enthousiasme pour cette matière. Je dis, c'est un cours d'histoire d'art avec cette historienne d'art latino-américaine, George Kubler, brillante professeure, qui montrait des diapos dans ses conférences, qui me fascinait. La plupart étaient des choses comme des momies enveloppées, entourées avec des textiles, avec des chiffons, avec des choses tissées, tressées, crochetées, nouées. Et ça me fascinait que la façon que ces gens a préservé ses souvenirs de ses tribus, même des enfants morts, étaient tous entourés avec des bandes de textiles. Ça me fascinait. Et je commençais de regarder plus près ce type de textiles qu'ils ont choisi, qu'ils ont fait. Et ils ont fait ça dans l'altiplano, sans métier à tissage, seulement assis par terre avec deux bâtons. Un attaché au ceinture, avec des ficelles, et l'autre attaché à un arbre, ou une pierre, ou un voisin, pour tirer les fils, pour créer les tensions, tirer des fils parallèlement, et d'après, entrer les fils et attacher les fils, de séparer les fils et de jouer avec le passage des fils dans toutes les directions. Et une fois fini, une fois de créer des choses, des objets avec tous ces fils, de les lâcher, sortir les deux bâtons, et c'était aussi beau et aussi génial, face et dos. Et pour tous les côtés. Après, ils ont donné pour s'habiller, ou pour s'asseoir, ou pour se protéger, ou pour vivre dedans. Et je me suis dit, on peut faire tout. On peut vivre avec fil. C'est le fil qui c'est le secret.
Alors ce secret, de fait, vous êtes allé le chercher loin, vous le disiez, chez la Aix. C'est en 57 que vous avez cette bourse du programme Fulbright. Vous partez donc pour ce voyage. Il y a le Chili, mais pas seulement le Chili. Vous y rencontrez notamment Sergio Larraín, qui va vous emmener en avion pour ses missions cartographiques. Vous survolez différents pays. Mais le textile, et vous l'aviez compris pendant vos études, déjà, c'est un langage. C'est aussi un paysage, il faut le déchiffrer. Et là, vous allez vous-même construire vos premiers ouvrages avec votre métier à tisser portatif que vous avez créé vous-même.
Avec des petites branches,
oui,
des arbres.
Comme ce que vous racontiez à l'instant. Mais comment est-ce que vous avez procédé pour comprendre ce langage, pour assimiler ce langage et pour qu'il devienne votre langage?
C'est pas devenu mon langage. Dans un sens, j'étais sublimé à son langage. J'étais fasciné et je suis toujours fasciné. Même je regarde comment est-ce que les gens nuent ses chaussures dans le métro. Ça me fascine. Chaque personne avec une ligne pliable, qui c'est un fil. En soie, coton, lin, nylon. Je dis toujours, touche votre voisin. Dites-moi, ferme les yeux et dites-moi qui c'est, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce que c'est cette matière? Et vous savez, tout est fait avec des fils. Mmh. Avec un fil continu qui bouge dans tous les sens pour devenir pullover, soutien-gorge, jupe, chaussette.
À ce propos, on va entendre un autre intervenant très intéressé par la question du fil. C'est l'anthropologue britannique Tim Ingold, qui a consacré de nombreux ouvrages à cette question de la ligne. Il était interviewé l'an dernier sur l'antenne de France Culture dans l'émission LSD. Écoutez cet extrait.
Le problème avec les lignes, c'est que quand on commence à y prêter attention, on voit qu'elles sont partout. Donc si je regarde par la fenêtre ici, je vois des bambous avec des tiges qui sont comme des lignes très nettes. Et je vois que nous sommes assis ici dans un petit foyer où il y a des lignes tissées dans le tapis qui est sur le sol et aussi dans le tissu des fauteuils sur lesquels nous sommes assis. Je peux regarder là-bas et voir des lignes rectangulaires très droites dans le dallage en pierre du couloir où nous sommes assis. Et au mur, il y a un tableau dont je ne sais rien de l'auteur, mais je vois qu'il est rempli de lignes peintes. Derrière le mur, auquel sont fixées des lampes, eh bien, derrière le mur, on ne les voit pas, mais il y a des fils électriques. Encore des lignes, donc les lignes sont partout. L'anthropologie est une manière d'étudier les conditions et les possibilités de la vie humaine. Et ce que j'avais découvert, c'est une façon de penser un être vivant non comme une entité autonome, mais en fait comme un chemin de déplacement à travers le monde. Donc cela s'applique aussi aux êtres humains et nous devons penser à l'être humain comme à une ligne de vie, une trajectoire de vie. Les Inuits disent que dès qu'une personne bouge, elle devient une ligne parce qu'elle laisse une piste dans la neige. Et en croisant ces pistes, nous rencontrons d'autres personnes. Et donc, l'anthropologie de la ligne est une anthropologie qui affirme que la vie se vit, non pas en des points ou dans des lieux fixes, mais le long de lignes. Et pour comprendre les relations sociales, on doit comprendre les relations entre ces lignes.
Alors, comme le dit Tim Ingold, les lignes, la ligne est partout chez l'AX. La ligne, c'est donc aussi la fibre du tissu. La ligne, elle vous ouvre tous les horizons, tous les espaces. Alors, je l'ai pas dit, mais dans ce voyage en Amérique du Sud, il y a bien sûr le Chili, mais il y aura le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Venezuela, le Mexique, vous y reviendrez, vivre un certain temps. Et puis, quand vous revenez à New York, vous soutenez une thèse sur les tissus précolombiens, qui est dirigée par Joseph Albers et Junius Bird. Et puis, le professeur Henri Peyre, de l'université de Yale, vous donne une bourse pour aller étudier en France. Vous y rencontrez notamment une de vos idoles, si je puis dire, l'ethnologue Raoul Darcourt, hein, qui est un spécialiste des textiles précolombiens, mais vous dites qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas prête pour Paris, et donc vous partez vous installer quelques années au Mexique, avant de revenir en France. Mais durant ces années mexicaines, chez l'AX, vous travaillez notamment avec l'architecte coloriste Luis Barragán, et surtout, dans ces années-là, vous abandonnez la peinture pour vraiment privilégier le fil. Le fil, c'est la ligne qui sort du cadre, la ligne qui peut partir dans l'espace, qui peut créer un espace.
Qui a une texture et une couleur. Texture, couleur.
Il y a
donc,
tout.
Tactile. Et on entre dans l'espace. Luis Barragán, je rencontrais. Aussi Mathias Gerrits. Et aussi le copain de Luis, c'était Chuchu Reyes, artiste mexicain. Et je commençais à imaginez comment habiller l'espace avec couleur, texture, structure. Donc, évidente, c'est le textile, tissage et façon de faire bouger les lignes pliables. Je commençais à faire des tapis de prière pour accrocher au mur, aussi pour qu'on peut poser par terre, s'asseoir sur et prier, ou regarder comme un trompe-l'œil dans distance, et les architectes Candela, Legoretta, Barragan, les autres, commençaient de m'inviter à collaborer dans ces projets, d'imaginer des choses qui peuvent entrer et enrichir son espace, l'espace qu'ils ont dessiné, et de faire des choses et d'empêcher les clientes qui entrent, qui prennent possession de le bâtiment ou de le bureau ou de la maison, de commencer de le remplir avec des choses incompatibles avec la maison ou l'idée ou le dessin. Parce que les architectes, ils sont puristes. Ils veulent préserver son architecture. Ils ont erreur une fois qu'ils sont occupés, quand les gens commencent avec des camions ou des meubles et des choses qu'ils ont héritées. Donc ça peut être beaucoup de choses, une grande pagaille. Mais si on, depuis le commencement, on commence à définir des certains espaces, comme vous avez fait ici dans la maison de radio, il y a Staly en bas, le grand colonne. J'ai connu lui quand il était en train de faire ça. C'était pour préserver l'espace pur de l'architecture. Vous avez vu comment c'est encombré maintenant avec des graffitis, des affiches, de ricabrac. Donc, dans un sens, l'idée d'entrer avec des idées textiles, tout de suite, c'est comment habiller quelqu'un. Habiller, regarder dans un auditorium et voir qui vous avez envie d'approcher à cause de comment est-ce qu'ils sont habillés. On voit des dos, on voit des tombes, on voit pas le visage, on voit des dos. Qu'est-ce qui vous attire? Et s'il y a quelqu'un qui a choisi un poncho, une écharpe, un habit très riche dans le sens attractif, texture, couleur, c'est gagné.
Dire alors, chez Laïc, c'est on va entendre une dernière voix importante que en 64, donc vous revenez à Paris cette fois pour de bon avec femme, avec mari et enfant. Vous avez déjà une fille à ce moment-là. Il y a un petit garçon qui va arriver. Un premier atelier quai des Grands Augustins, puis cette installation cour de Rohan, là où d'autres grands artistes ont eu leur atelier. Mais moment important, vous l'avez raconté en 72, à l'inauguration du nouveau bâtiment du Musée national des arts et traditions populaires. C'est dans le bois de Boulogne. On va écouter cette archive de Georges Henri Rivière, le créateur du Musée des arts et traditions populaires. Il l'a créé en 1937 et il répond ici aux questions d'un journaliste.
Il est beaucoup question depuis quelque temps de la création en France d'un musée du folklore français. Monsieur le conservateur en chef, vous êtes à la base de cette initiative. Pourquoi, justement, une telle idée est-elle en l'air?
C'était une chose singulière, car la France avait le musée de l'homme, c'est-à-dire ce temple de l'homme qui a été imaginé par le professeur Paul Rivet, d'immortelle mémoire parmi nous, n'est-ce pas, pour illustrer les cultures de tous les peuples du monde. Et au milieu de toutes ces cultures, de tous les peuples du monde, il y avait un énorme trou, un océanonox en mugissement qui était l'ethnologie de la France, la société française traditionnelle. Et petit à petit, nous sommes quand même arrivés, en un peu plus d'un quart de siècle, à édifier cette institution. Eh bien, nous aurons pu, grâce à cette action du Musée des Arts et Traditions Populaires et de son centre d'ethnologie française, apporter ce témoignage de la société traditionnelle, considérée non pas d'une manière statique, mais dans son développement, dans toute sa variété, et aussi dans son raccord au monde moderne. Car ne l'oublions pas, la société industrielle a aussi son folklore, et n'oublions pas le jazz et toutes les manifestations modernes, enfin tout ce qui fait que la jeunesse vit aussi quelque chose de différent et qui finalement, malgré tout, se relie à l'homme, car l'homme traditionnel et l'homme industriel, c'est le même et c'est ce que nous voudrions montrer dans notre musée et dans notre centre d'ethnologie de la France.
C'était Georges Henri Rivière. Quelle importance a eu pour vous chez Laïc la découverte de ce musée?
Pour commencer, c'est Imagine. Pour commencer, c'est Lévi-Strauss qui Madame Lévi-Strauss qui m'a invité à dîner avec
Georges-Henri Rivière.
Oui, parce que ils étaient très amis. Et le et c'était une conversation facile, sans parler. C'était une adhérence à sa façon de, comme il l'a expliqué, de voir la vie. Parce que moi, j'étais plongée en plein dedans de cette même perspective.
Alors, ça libère aussi, ça vous permet d'explorer différentes façons de créer chez l'AEX. Alors, évidemment, différentes déclinaisons de votre pratique, à commencer par les minimes. Les minimes sont des... Alors quoi, des variations, des exercices de style, un journal de création, ça remonte très loin. C'est une pratique qui, je crois, était quotidienne. Est-ce que c'est ces petites formes, est-ce que ce sont des comme un, est-ce que ce serait comme un laboratoire pour les autres œuvres?
Il y a une roue de dans le marais, il y a une roue qui s'appelle la roue des minimes que j'ai rencontrée un jour quand je marchais. L'idée des minimes est venue parce que jusqu'à ce moment, quand les gens m'ont demandé de montrer des expériences, des petites expérimentations que j'étais en haut de m'amuser avec des fils, je l'appelais des trucs. C'était pas très élégant. Je me suis dit, on va jamais arriver dans une galerie et demander de montrer ces trucs. Donc, une dame qui avait une galerie Boulevard Saint-Germain, très belle galerie, à côté d'un grand magasin qui s'appelle Knoll. Elle s'appelait Suzy Langlois. Je suis allée pour montrer mes trucs, que je l'appelais, je voulais montrer mes minimes. Ah, des minimes. Ah, ce sont des petites choses. Oui, ce sont des petites choses, mais avec un grand avenir. Et ça s'est passé comme ça. Donc, c'était moitié blague, mais moitié façon d'honorer l'idée que petite peut être aussi grande comme idée.
C'est un vrai réservoir, mais est-ce que les minimes, c'est aussi pour vous comme un espace de méditation, de rêverie, de...
Des esquisses. Et aussi un petit champ de méditation. Parce qu'ils ont 4 lisières d'habitude. 4 lisières, ils sont le commencement et la fin sont tous entièrement intégrés. Sont pas, il n'y a pas de ciseaux, pas de coupeurs. C'est une petite chose qui est intégrale. Comme on espère faire une vie avec beginning, middle and end, qui a un sens. Sans trop des coupures et des ruptures.
Une vie souhaitable. Mais alors, du coup, il y a les minimes, mais à l'autre bout de l'échelle, si je puis dire, en termes vraiment physiques, il y a des œuvres monumentales aussi chez l'AEX qu'on peut alors considérer comme des sculptures, comme des installations. Certaines sont faites par, existent par série, comme ces colonnes colorées avec des fibres synthétiques qui peuvent du coup être montrés en extérieur, mais il y en a d'autres depuis la fin des années 70 aussi, à ce moment-là, avec des tissus qui ont eux-mêmes une histoire, je pense à ces draps d'hôpital ou des uniformes de soldats que vous avez aussi réutilisés, et puis d'autres sont aussi des commandes hein, pour des bâtiments, soit d'entreprises, d'institutions. Il y avait eu le mural pour la Fondation Ford à Manhattan, ça remonte à 67, mais plus récemment, ce rideau de théâtre pour le centre culturel de Gunmakyo-ryu au Japon en 2001. Mais ces derniers exemples me permettent d'aborder une façon, une notion importante dans la conception de vos œuvres chez l'AEX, c'est que il faut travailler in situ. Il faut d'abord voir le bâtiment. Et alors, si on prend un exemple monumental, le Fuji City Cultural Center au Japon, vous y avez réalisé une tapisserie, alors je crois que le chiffre est juste, de 103 mètres de long sur 2,60 mètres de haut. Alors si on prend cet exemple, comment est née cette œuvre?
C'est un bas-relief, un peu comme cette salle ici. C'est un bas-relief avec un théâtre, avec, c'est un centre culturel, il y a trois théâtres avec tout vitré et tout tourné vers Mount Fuji. Et les architectes ont dit, et qu'est-ce qu'on fait sans que les gens payent de venir ici dans le lobby et qui attendent la performance et l'intermission, et que c'est le nuage qui couvre Mount Fuji. C'est un peu raté, non?
Qu'est-ce qu'on va regarder?
Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, en haut des trois entrées aux trois théâtres, une longue frise. C'est pour ça que c'est aussi long. Une longue frise qui peut parler et même conduire les gens vers ces salles avec une couleur codée. Je suis dans la salle bleue, dans la salle verte, dans la salle avec ces... Et j'ai imaginé un dessin qui était le contrepartie des Mount Fuji. Si vous êtes dans le soir, dans cette salle de théâtre, et que vous ne perdez pas, mais c'est la couleur qui vous sauve. Parce que c'est là que ça vous dirige vers la famille que vous avez laissée assise dans une pièce. C'est donc utiliser la couleur et la matière comme un passeport aussi, conduire. Guide, type de guide. Comme Air France. Quand j'avais fait tout le 747, une forme d'une arche pour l'avion, pour la partie haut, au première classe, le bar en haut. C'est une forme, une arche, aussi avec une texture verticale, horizontale, qui était un semblant d'un tissage, mais en fait, c'était un type de broderie, mais bas-relief. C'était pour accommoder le passager et pour donner une sensation de sécurité en voyageant. Parce que c'est là que les gens qui avaient la bonne fortune de boire du champagne dans la première classe des 747 et assis devant une tapisserie brodée, c'était vraiment très français. C'était l'élégance.
Très relaxant, la détente.
Et c'était la réputation de la France qui a monté tout de suite parmi toutes les Américaines qui voulaient venir en France, mais ils ne voulaient pas prendre les autres avions, ils voulaient prendre Air France.
Et grâce à vous, Sheila X.
Notre idée d'animer l'espace est dans une façon très accueillante.
Alors, en ce moment, à Paris, en tout cas, il y a deux endroits où on peut voir certaines de vos œuvres. Alors, il y a Art Paris, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette œuvre Scarlet Letter, la lettre écarlate, qui est celle qu'on a posée sur les femmes qui avaient fauté. Qui avait commis un péché, il faut renvoyer à ce roman. Mais cette œuvre-là, comment est-elle née?
Le titre ou l'œuvre?
L'œuvre. Est-ce que c'est le titre qui donne l'œuvre? Non, le titre arrive après l'œuvre.
Comment c'est pénible et c'est très long pour faire cette œuvre. C'est comme une patience à l'aiguille. À l'aiguille, comme on écrit une lettre. Et comme je dis, comme on écrit une lettre, peut-être une lettre avec des messages codés. Et comme j'avais choisi rouge, je me suis dit, pour un foie d'art, c'est parfait. Rouge tire l'attention parce qu'il y a une telle pagaille dans ces foies d'art. C'était métaphoriquement une lettre rouge avec un message codé. Peut-être même attractive, séduisante.
C'est ce qu'elle est en effet. Mais alors, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on peut expérimenter Art Paris, mais mieux encore à la galerie Frank-Elbaz, c'est comment vos œuvres respirent, vivent, nous attirent à côté d'œuvres d'autres artistes. C'est le cas dans l'exposition Emerging, Submerging, Reemerging, qu'on peut voir jusqu'au 1er mai à la galerie Franck Elbaz à Paris. Votre travail est exposé en compagnie de celui de Stéphane Henry, de Yasu Isa Koyama et de Robert Storr, plus étonnant. De fait, les formes que vous créez rencontrent d'autres formes, en l'occurrence des tableaux et des sculptures. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Laex dans ces rencontres, dans ces expositions où vos œuvres sont avec des œuvres d'autres artistes?
It's pretentious. C'est prétentieux à dire, mais je sais que le textile va gagner.
Pourquoi?
C'est inévitablement. On met des sculptures, on met des peintures, on met des dessins, on met. Mais les gens sont attirés. Mais regardez les enfants qui entrent, les innocents. Ils se dirigent tout de suite vers une chose qu'ils pensent qu'ils peuvent toucher. Regardez l'exposition des Brancusi maintenant. Le pédestal, c'est une merveille. L'œuvre est magistrale, mais tout le monde est enchanté avec le pédestal, que c'est cette texture en bois, la matière avec une tactilité, avec des secrets comme au sacré. Bon, si j'entre dans une exposition avec des autres artistes qui utilisent tous autres matériaux, c'est fascinant d'avoir des points de comparaison. C'est très ennuyeux, une exposition tout textile. Je dis aujourd'hui, dans l'art contemporain, on se voit ça, le Paris de l'exhibition, il y a quelques stands qui sont remplis de œuvres textiles. Bon, un, tout l'autre. C'est un qui est plus brutal, très brutal. Un autre qui essaie d'être plus sauvage, plus brutal. Il y a une compétition et une annulation l'un de l'autre. Mais si vous entrez avec un peintre, un céramiste, et quelqu'un qui expérimente avec des résines et nouvelles matières.
Ça, c'est l'exposition chez Franck Elbaz.
Et ça, c'est l'exposition qui m'a parlé de faire une chose ensemble.
Parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension qui est très, très étonnante dans votre travail chez Laex, qui est liée bien sûr au textile. Alors, bien sûr, il y a la forme, il y a la couleur, il y a des associations de couleurs qui sont très étonnantes. Et on peut penser à Claude Monet ou à Joan Mitchell, enfin, avec des gens qui osent des couleurs et des confrontations, mais c'est vrai, quand on voit vos œuvres, on a l'impression de les toucher aussi. Il y a quelque chose, il y a une attraction qui est très particulière. Comment est-ce que vous envisagez, vous, cette dimension-là, de cette dimension quasiment tactile, en fait, de votre travail? On a envie de le toucher.
Ne vous empêchez pas.
Ils ont souvent les gardiens des musées qui empêchent.
Oui, mais... je dis, allez, regarde, jusqu'à le gardien, regarde de l'autre côté, allez toucher. Et vous ne touchez pas, quand vous êtes au cinéma, le coude de le voisin, si c'est avec une blouse en soie.
Bon, je ne sais pas si on peut toujours faire ça, mais ça, c'est un autre problème. Ça peut être dangereux.
C'est très français comme idée.
C'est vrai?
Oui. Le français aime énormément le soi. Il y a des autres civilisations ou des pays ou des endroits où ils sont intimidés de toucher le soi. Pas aux Indes, pas en Chine, mais si on parle de soi en Amérique, ça veut dire que vous êtes un peu prétentieuse. Les hommes portent des cravates en soie, quelquefois.
C'est assez prétentieux. Mais dire donc qu'il y a cette présence à la 26e édition de Art Paris, il y a cette exposition chez Franck Elbaz, Il faudrait aussi évoquer le fait qu'à l'automne 2024, il y aura une double exposition qui vous sera consacrée chez l'AEXO, Joseph Albers Museum à Bottrop et à la Kunsthalle de Düsseldorf en Allemagne. Il y a une exposition qui se prépare aussi au Musée d'Art Moderne de San Francisco en 2025. Cette reconnaissance mondiale aujourd'hui de votre œuvre chez l'AEXO, on peut dire qu'elle est venue quand même assez tardivement, on va dire, et une grande visibilité en 2012 à la Biennale de Sao Paulo et puis au Whitney Museum en 2014, qui était quand même l'année de vos 80 ans. Il y a la participation à la Biennale de Venise, l'exposition que j'évoquais au Centre Pompidou. Alors, on peut trouver que c'est très tardif pour s'intéresser vraiment de près à votre œuvre, mais en même temps, on peut se dire que ça vous a permis de développer votre travail
en
fête, paix.
Oui, oui, la fête continue.
C'est comme ça que vous le voyez.
Mmh.
Ouais. Maintenant.
90 ans l'année prochaine.
Ouais.
Donc la fête continue. On y va.
On y va. Et alors, le prochain grand rendez-vous que j'évoquais en Allemagne, l'automne prochain, deux lieux, deux expositions. Comment est-ce que c'est conçu cela ?
Troisième, c'est à Munich aussi.
Ah, il y en a une troisième ? Elles sont déclinées comment ? Est-ce qu'il y a des thématiques selon les endroits ?
C'est ouvert. Carte ouverte.
Pour la liberté ?
Oui, c'est la liberté. Il anticipe des surprises.
Mm.
Donc il faut le faire.
San Francisco, de la même façon, ce sera ouvert ?
Oui, peut-être beaucoup de hamacs.
Ah !
Parce que l'exposition va être intérieure et extérieure sur la terrasse.
On pourra se mettre dans vos hamacs.
Oui, beaucoup des hamacs. Une fête des hamacs.
Ah, ben voilà, qui permet, qui donne envie d'aller à San Francisco.
Avec le beau temps.
Pour l'heure, il me reste à rappeler que donc, il y a Scarlet Letter, une œuvre impressionnante et qui mange l'espace. Je ne l'ai pas encore vu installée dans Art Paris. Je n'en ai vu que des images. Mais,
mais la vitrine, il y a deux vitrines très spéciales à Paris. Hermès, bien sûr. Mmh. Faubourg Saint-Honoré, la vitrine qu'ils ont dans les coins, que j'avais fait deux, trois fois déjà.
Ouais.
Mais la vitrine préférée à Paris, pour moi, c'est rue de Seine. C'est une petite niche, un petit coin, dans une galerie qui s'appelle Zlotowski. Et avant-hier, j'ai installé une vitrine.
Mais voilà de bonnes nouvelles.
Rue de Seine. Parce que quand j'ai habité rue de Seine, c'est le premier endroit où j'habitais quand j'habitais ici à 57 rue de Seine, devant le petit parc là. Et quand je faisais le marché ou quand j'ai découvert tout le joli galerie, le magasin de design, il y avait une vitrine que j'adorais, que c'était cette vitrine. Maintenant, quand vous êtes en promenade rue de Seine, regardez la vitrine.
Bon, je note ça et on va noter tout ça, tous les rendez-vous avec Sheila X à retrouver dans Paris sur notre page internet, celle de l'émission Affaires culturelles. Merci beaucoup Sheila X d'avoir été notre invitée. Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Une compositrice classique signée sur le label expérimental britannique Warp, cela a de quoi surprendre. Et pourtant, Kelly Moran a tout à fait sa place aux côtés d'Aphex Twin ou One of Tricks Point Never. Habituée à composer sur piano préparé, une technique inventée par John Cage qui consiste à modifier la sonorité du piano en plaçant sur les cordes divers objets comme des boulons, des écrous ou des objets en plastique, elle a récemment eu l'occasion d'expérimenter un nouvel outil, le Disclavier Yamaha. Il s'agit d'une version moderne du piano mécanique, cet instrument programmable qui joue de la musique automatiquement à partir de rouleaux de papier perforés. Le Disclavier enregistre puis rejoue la performance tout seul. Kelly Moran s'en est donc saisie pour dépasser les limites physiques que lui imposent ses 10 doigts. De cette version augmentée et dédoublée d'elle-même, elle laisse une trace « Moves in the Field », un album de 10 titres qui vient de paraître. Le résultat est perturbant, mais élégant. Le morceau « Butterfly Phase » est notre son du jour. C'était Butterfly Phase de Kelly Moran, extrait de son nouvel album.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, suite de notre exploration de la création contemporaine en compagnie des lauréats de la Villa Kujoyama à Kyoto, et ce soir au programme une plongée dans le monde de la laque avec Nicolas Pinon et une tentative d'approche de la notion très japonaise de wabi-sabi avec le photographe Alain Villoum.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Pinon, je suis artisan d'art et ma spécialité est la laque végétale inspirée des techniques japonaises. En fait, la villa, on va dire que c'est une longue histoire d'amour. J'ai visité la villa la première fois en 2006 et je me suis dit que je viendrais toujours faire cette résidence. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être invité en 2022 et je me dis qu'un mois, c'était pas assez pour développer le projet que j'avais. Et donc je reviens cette année en 2024 pour une résidence plus longue, pour développer voilà, un projet plus grand.
Vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste le projet ? Alors pour cette résidence-là, un peu plus longue ?
Donc déjà je suis on va dire lauréat en binôme, donc je viens avec un designer d'ailleurs avec qui j'ai eu le prix Bettencourt, donc il s'appelle Dimitri Linka, et donc on vient tous les deux développer nos recherches sur les fibres et la laque végétale qui a une longue histoire en France et une longue histoire au Japon, et donc on vient un peu confronter ces histoires d'artisanat et de technique.
Adèle, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce qu'on est ce matin ?
Ce matin, on est chez Takuya Tsusumi, qui est fabricant et vendeur de laque. Et c'est Nicolas Pinon qui nous amène, puisque c'est ici qu'il se fournit.
Là, on est dans un magasin ou dans un atelier ?
En fait, on est un peu dans les deux. Chaque vendeur de laque au Japon produit sa propre laque. Donc, il reçoit la sève de l'arbre qui est produite dans les forêts et les transforme dans l'atelier et les revend directement.
Peut-être que vous pourriez nous faire un mini point sur comment on fabrique la laque.
Exactement. Donc la laque, en fait, c'est la sève d'un arbre de la famille des sumacs, donc qui est récupérée. Et cette sève, en fait, est juste dans son utilisation filtrée, légèrement déshumidifiée. Elle est utilisée pour protéger les objets, les rendre plus solides et les rendre plus durables.
Alors quand on rentre dans une boutique de fournisseurs de laque comme ici, dans le centre de Kyoto, on voit des objets alors, aussi différents que des planches de surf, des vélos. Il n'y a pas que les bols en bois laqué que l'on a dans nos imaginaires, mais tous les objets contemporains peuvent utiliser la laque. Et c'est une façon en fait, de faire perdurer cette technique traditionnelle dans le monde contemporain.
Je m'appelle Takuya Tsutsumi, je suis fabricant de laque et mon travail consiste à extraire la sève des arbres et à la transformer en laque.
Voici l'arbre qui va donner cette sève, donc on va scarifier l'écorce et de la scarification va sortir un liquide et c'est ce liquide qui va devenir la laque. Donc ça se fait sur la période de juin à septembre quand la laque est on va dire descendante à la fin du printemps et on doit attendre que l'arbre ait entre 10 et 15 ans pour pouvoir récolter. On va récolter la laque donc sur une saison et l'arbre à la fin de la saison il va être coupé. Parce qu'on aura récolté toute la sève qui sera nécessaire à l'utilisation.
Alors là, on entre vraiment dans la partie atelier. Et c'est l'odeur d'abord qui nous saisit.
Là, c'est la salle où on travaille la laque, la sève de l'arbre. On commence d'abord par l'étape d'enlèvement des déchets du liquide.
Donc là, il y a deux bras mécaniques articulés qui doivent, j'imagine, remuer la sève.
ce bas qui va servir à mélanger de la fibre de coton avec la laque, qui va permettre d'emprisonner les impuretés qui restent, parce qu'en fait pendant la récolte il y a toujours des petites choses qui vont rester dans la laque parce qu'elle n'est pas très bien filtrée. D'accord. Donc la laque va sortir et toutes les impuretés vont rester emprisonnées dans le coton.
Et ça, c'est une spécificité japonaise ou de Kyoto, ou par exemple en France vous trouvez aussi des fournisseurs de laque pour travailler?
Alors pas du tout, donc moi je me fournis exclusivement au Japon pour la laque. On va dire qu'en Europe, le milieu est tellement petit et tellement restreint qu'en fait, il n'y a pas de marché. Donc, les gens importent la matière pour pouvoir travailler. Et surtout, tous les fabricants sont ici.
Et avec quel outil on la travaille, cette laque ?
Alors, on va travailler la laque avec des pinceaux, donc tout se fait à la main. Et surtout, ils utilisent des outils très traditionnels. Donc, ils vont utiliser pour l'application des pinceaux qui sont faits en cheveux de femme. Donc, ils sont restés plutôt assez traditionnels dans l'utilisation des pinceaux. Donc, ils utilisent du poil animal et donc du cheveu parce que pour l'instant, en qualité, en fait, ils n'ont pas trouvé les équivalents en synthétique.
Donc, ici, vous, chez vous, vous avez un pinceau en cheveux de femme?
J'en ai plein. J'ai plein de pinceaux en cheveux de femme. J'ai même rencontré la personne qui les fabrique dans le nord du pays.
Je m'appelle Alain Villaume, je suis photographe, je fais partie du collectif Tendance Floue depuis 2010. Alors mon sujet c'est le wabi-sabi, donc il y a une espèce d'énorme notion philosophico-religioso quotidienne comme ça.
Que vous pourriez définir comment en quelques mots? Sais que ça va être difficile, c'est la question piège.
Mais les Japonais eux-mêmes ont un mal de chien à me définir ça, donc en fait ce sujet-là, cette notion... moi, j'ai découvert il y a quelques années, sans du tout savoir rien sur le Japon. Et au fur et à mesure que j'apprenais des choses là-dessus, je me disais, mais c'est incroyable parce que moi, je suis là-dedans depuis des années.
Ah oui, sans avoir le mot.
Sans avoir le mot, sans même savoir que ça existait au Japon. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette familiarité-là avec ce concept qui est totalement étranger à moi et à ma culture. Et en fait, le sujet que j'ai proposé, c'est d'essayer de comprendre ça, quoi.
Comment ça teinte votre travail d'être ici, en résidence, dans cette villa à Kyoto?
Je crois que la première chose marquante ici, c'est le froid, l'hiver, les nuées, le brouillard. Je suis parti dans la montagne faire des photos de nuages, faire des photos de paysages pris dans la brume. Et je savais qu'il fallait que je commence par là. L'autre chose, c'est que j'aime pas la lumière du soleil pour les photos. Donc il me fallait de la lumière d'hiver, pas de soleil. Et l'ombre, pour moi, c'est lié beaucoup avec cette notion de wabi-sabi qui est c'est là où ça devient compliqué. C'est que il faut essayer de définir cette notion-là pour caricaturer à l'extrême par rapport à ce qu'on sait en Occident. Wabi et sabi, c'est deux mots. Il y en a un qui est l'action du temps qui passe, c'est-à-dire que le vieillissement, l'altération des choses, l'altération des gens. Et l'autre côté, c'est la beauté de ça. Qu'est-ce qui fait que quelque chose d'imparfait peut être beau? Et moi, j'ai une façon de travailler qui intègre beaucoup les imperfections.
Vous pouvez nous montrer, là, on a sur nos genoux quelques-uns de vos premiers tirages. Vous pouvez nous parler d'une de ces photos qui vous semble caractéristique de votre travail ici?
Il y a cette histoire de tremblement qui est sur toutes les images. C'est que pour la première fois, j'ai intégré un espèce d'effet qui fait qu'il y a une partie de l'image qui est tremblée. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de faire ça. Et je faisais ces images, et puis les images s'accumulaient, et je me disais, mais d'où ça vient cette histoire de tremblement? Et je me suis rendu compte que quelques jours avant, il y avait eu un tremblement de terre ici.
Comme si vous l'aviez intégré corporellement.
Exactement,
quoi.
Ouais. Et ça donne une espèce de fragilité à chaque image.
Et est-ce qu'au bout de ces quelques semaines, et peut-être à l'issue de la résidence, vous aurez l'impression d'avoir résolu ce mystère de ce concept que vous êtes venu chercher ici, ou au contraire, le mystère va s'épaissir et va devenir de plus en plus grand?
C'est exactement ça. Il est devenu beaucoup, beaucoup plus grand et j'ai plus du tout envie de partir.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Eh bien demain, Arnaud, dernière étape de notre semaine avec les résidents de la Villa Kujuyama, nous serons avec le plasticien Simon Nikes dans une brasserie de saké, puis direction Kanazawa pour comprendre le concept de post-résidence spécifique à la Villa.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.